et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, le retour d'un grand écrivain, des histoires d'insectes, des lycéens face à une écrivaine et un homme de radio qui déprime. Laurent Godet est dans la librairie francophone cette semaine pour son nouveau roman flamboyant, humaniste, poétique et éclatant. Nous verrons toutefois si ce roman tient ses promesses ou s'il dérange avec nos libraires notamment. Bonjour Laurent Godet.
Bonjour Emmanuel
Carat. Merci d'être avec nous. Votre nouveau personnage, Salina, est une femme qui a souffert et qui va se venger. Quel regard portez-vous sur la vengeance et la révolte, vous Laurent ?
Ça m'intéresse parce que c'est le bouillonnement intérieur qui est en chacun d'entre nous. Donc en ce sens-là, ça fait partie du territoire de l'écriture.
Vous êtes un homme révolté comme Camus ? Dans l'esprit de Camus ou
non,
dans un autre genre ?
Je suis un écrivain qui aime beaucoup parcourir la palette de tous les sentiments humains et la révolte ou la vengeance en fait partie. Donc ça fait complètement partie du domaine de l'écriture.
Bien, merci d'être fidèle à la librairie francophone.
Merci à vous.
Le Suisse Pierre Lepori publie quant à lui un roman qui nous emmène dans le monde de la nuit et des confidences à la radio. Tiens, un animateur qui craque à l'antenne et qui part faire le point sur sa vie. Et nous verrons justement si j'arrive à tenir jusqu'à la fin de cette émission. Elle a tenu, toute une séance de questions devant 200 lycéens. Amélie Nothomb échangera avec la jeunesse tout à l'heure dans une séquence inédite. Et puis nous parlerons des insectes avec François Lasserre, ces bestioles qui nous effraient ou nous agacent, portent en elles des histoires absolument stupéfiantes. Nous allons vous faire vibrer grâce aux cafards, fourmis, guêpes et moustiques.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Pour commencer, un mot sur Joseph Joffaut qui est mort cette semaine à l'âge de 87 ans, auteur de contes pour enfants et surtout de 17 romans. C'est son premier livre, Un sac de billes, qui racontait son enfance sous l'occupation allemande, qui fera de lui un auteur reconnu et étudié à l'école. Refusé par 4 éditeurs, il recevra pourtant le prix de l'Académie française en 1974. Joseph Joffaut a vendu plus de 20 millions d'exemplaires de ce livre à travers le monde.
J'avais envie d'écrire cette aventure qui m'est arrivée pendant la guerre, depuis toujours. Et maintenant, c'est chose faite. En fait, c'est une sorte de défoulement. Vous savez, quand il vous arrive une aventure comme celle-là, à l'âge de 10 ans, on en reste et qu'on en échappe surtout, c'est très important, eh bien, il en reste quelque chose et on a envie de le dire.
Laurent Godet, vous avez lu Joseph Joffaut ?
Enfant, à l'école, oui, je crois, au collège, si mes souvenirs sont bons. Et c'est assez impressionnant, je trouve, de voir que ces gens qui étaient des auteurs pour nous, enfants, donc des espèces de choses un peu comme ça, éternelles et inamovibles, en fait, vivaient la même époque que nous et sont en train de disparaître. Ouais, c'est la fin d'une génération, là. Ouais. C'est la fin des derniers témoins, ceux qui étaient enfants pendant la guerre. Et je sais pas, ça me fait penser que cette histoire-là va devenir vraiment de l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de témoins et qu'il faut qu'on s'en empare. Nous, aussi à travers la fiction.
Et un grand classique de la littérature désormais, un sac de billes qu'il faut lire et qu'on continue d'ailleurs à lire à l'école. Merci Laurent. Les libraires sont en multiplex comme chaque semaine avec nous. Bonjour Laura Sanchez.
Mais bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève. Laura, vous représentez donc la Suisse depuis la librairie du Boulevard. Au Canada cette semaine, c'est Josiane Letourneau, libraire dans la librairie du Square à Montréal qui est avec nous. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
La France est représentée par Mathieu Colombe cette semaine, tatoué comme un danseur polynésien.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard. On ne vous surnommera pas le bourdon, nous verrons les insectes tout à l'heure. Bonjour Déborah Damblon, quel insecte choisissez-vous, vous?
Mais Déborah, c'est l'abeille en hébreu, Emmanuel, vous ne pouviez pas mieux tomber.
Et voilà, exactement. Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Merci beaucoup d'être avec nous tous les quatre. Bonjour François Lasserre.
Bonjour.
Nous parlerons de votre petit livre très amusant, très instructif sur les insectes tout à l'heure. On commence toujours par une anecdote. On vous a demandé d'ailleurs de choisir, quelle histoire étonnante sur un insecte vous avez retenu, relevé? Que voulez-vous raconter?
Alors, elles le sont toutes, donc sur le moment on est complètement interloqué, puis en fait il y en a une qui me vient, c'était il n'y a pas si longtemps, 10-15 ans, j'observais une mouche, oui, les entomologistes, les spécialistes des insectes observent les mouches, ça leur arrive, et je l'ai vue se poser au milieu d'une feuille, voilà, prendre un peu ses aises, et puis d'un seul coup elle s'est mise à reculer au bord de la feuille, et elle a fait sa crotte.
Ouais.
Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, j'avais rien compris, en fait. C'est-à-dire que cette espèce de conscience de son environnement, de reculer, faire sa crotte, de pas souiller l'endroit où elle était, oui, vous vous rendez pas compte
ce que c'est pour un
insectologue. Et en fait, en creusant le sujet, bien sûr que les insectes ont des pensées subjectives, ils ont une conscience et on n'est pas prêt de s'arrêter dans les découvertes.
Et ils ont un ego, paraît-il, on y reviendra ensemble, c'est ce que vous dites dans le livre. Merci, François Lasserre est dans la librairie francophone cette semaine. Et Laurent Godet aussi pour son nouveau roman Salina, les trois exils. Nous allons vous raconter cette histoire. Quelque part dans le monde, un village entend les pleurs d'un enfant. C'est un bébé qu'un cavalier a déposé au soleil. Un sacrifice, en quelque sorte. Personne ne bouge. Des hyènes arrivent, intriguées et affamées. Mais une femme se lève et prend l'enfant dans ses bras. C'est une petite fille. Elle va la prénommer Salina. Elle la sauve.
Elle la sauve, elle l'intègre au village et au clan Jimba, absolument. Mmh. Oui.
Alors on va retrouver Salina, très âgée, qui attend son fils, cette fois, pour aller trouver les terres où elle va mourir. Mmh. Mais ils n'ont pas le temps d'y arriver, Salina va mourir sur le chemin, portée sur le dos par son fils Malaka. Alors il va devoir accompagner sa mort et lui trouver son dernier refuge.
Absolument.
C'est très triste, hein. Bon week-end à tous.
On est au tout début du livre. Oui, c'est effectivement, Salina meurt assez vite et, le fils qui au début la portait sur ses épaules comprend que, effectivement, sa mission, d'une certaine manière, est dorénavant de trouver l'endroit juste où la déposer.
Et un certain cimetière, qui a les portes fermées.
Qui est sur une île. Et on lui fait comprendre que, il va devoir raconter l'histoire de sa mère, de ce corps qui l'amène au cimetière, et que c'est le cimetière qui décidera s'il ouvrira ou pas ses portes.
Oui. Alors attention, parce que s'il enjolive les choses, s'il n'est pas sincère, ou s'il ne connaît pas assez la défunte, les portes du cimetière ne s'ouvriront pas.
Absolument.
Il faut mériter sa dernière demeure. C'est ça le message, Laurent Godet.
Non, il faut assumer le récit, en fait. Malaka est dans la position, finalement, de l'écrivain qui est là et qui doit raconter son personnage et qui doit le faire de manière loyale.
Mmh. On va se plonger dans cette histoire, Laurent Godet, avec une lecture. On a choisi deux voix, la vôtre et la mienne, cette fois, exceptionnellement. Vous allez commencer, je vais enchaîner. Et comme ça, l'auditeur va comprendre cette intensité littéraire, parce que, on le verra avec les libraires, il y a une grande intensité dans l'écriture de ce livre. Et on va faire ça en musique.
Moi, Malaka, fils élevé dans le désert par une mère qui parlait aux pierres, je vais raconter Salina, la femme aux trois exils. Je vais dire ma mère qui gît là, au fond de la barque, et le monde qui apparaîtra sera fait de poussière et de cris. À l'époque où le monde a accueilli sa vie, il y avait des soleils qui faisaient saigner la peau et un désir de vengeance sauvage.
À l'époque où le monde a accueilli sa vie, il y avait une enfant venue de nulle part. Elle est née loin, Salina. Si loin que personne ne connaît le lieu exact, ni de qui elle fut l'enfant. Pas même elle. Moi, Malaka, qui dois faire le récit de sa vie pour que le cimetière décide de s'ouvrir ou pas, je choisis de commencer par ce jour de marche, à l'autre bout de sa vie, car c'est là que tout débute. Merci pour cette lecture, Laurent Godet.
Merci, Emmanuel.
Salina va donc se venger une grande partie de sa vie. Il va tout raconter, Malaka. Elle a vécu trois exils, trois souffrances, dont celle d'être mariée de force à celui qu'elle ne désirait pas. Tout commence là, et c'est un calvaire, sa vie.
Oui, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est de prendre un personnage. Au début de sa vie, il lui est fait violence. Elle est en fait mariée de force et violée. Et ensuite, elle embrasse, elle, le désir de se venger de tout ce qui lui a été fait et de toute cette vie qui lui a été volée, en fait. Et donc, c'est un personnage qui est dur. C'est pas du tout un personnage avec lequel on ne peut être que en empathie, parce qu'elle plonge les mains dans le sang, elle y va franchement.
Oui, il y a beaucoup de sang, d'ailleurs.
Oui, il y a beaucoup de sang. Et la question que se pose au fur et à mesure l'histoire, d'une certaine manière, c'est comment sortir de ce cycle de la vengeance dans lequel elle a été, elle, totalement et violemment. Ouais.
Et la vengeance implique-t-elle des révoltes ? Implique-t-elle forcément de la violence ? On va y revenir ensemble, Laurent Godet, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis un peu perturbé après la lecture du livre. Mais d'abord, on va laisser la place à nos libraires qui vous ont lu. La France, le Canada, la Suisse et la Belgique. On commence par qui ?
Le Canada.
Le Canada, allons-y. Josiane Letourneau.
Oh, mais quelle écriture, vraiment. Certains livres me prennent au dépourvu par leur pure beauté et Salina fait partie de cela. Il fait partie de ces livres que je vais relire pour le plaisir de me replonger dans la magie de cette plume qui rend tout si tangible, si vivant, qui fait tout respirer pour de vrai. C'est vraiment un livre qu'on a envie de mettre entre toutes les mains.
Laura Sanchez pour La Suisse, êtes-vous d'accord ?
Eh bien, moi d'abord, je suis toujours frappée en lisant vos romans, Laurent Godet, de côtoyer vos personnages. Ils sont tellement intenses, tellement présents, et vous semblez les aimer si inconditionnellement. Et ici, avec Salina, vous nous offrez un personnage de mère qui est absolument bouleversant. Mais moi, j'ai une réserve, je contredirais un peu ma collègue, au niveau du style. Je trouve que vous donnez... Alors, vous avez une intention de conte, hein, donner une couleur de conte à votre texte, mais moi, pour moi, ça gagnerait beaucoup en intensité avec un style plus neutre et plus resserré.
Bien, Mathieu Colombe pour la France.
Ben, je suis pas forcément d'accord. Bon, d'abord, c'est toujours effectivement un plaisir de lire Laurent Godet. Mais moi, j'ai trouvé que son style était parfaitement maîtrisé pour cet ouvrage-là. La rythmique, enfin, tout coule sous l'œil du lecteur. Et en plus, en bon conteur, vous savez l'emporter sur ce chemin de vengeance et de douleur. Mais vous n'avez jamais oublié d'y insuffler quand même quelque chose de lumineux.
Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup de talent et parfois, il l'expose, Laurent. Des bras d'emblon pour la Belgique. Votre avis?
Ben oui, moi, l'écriture aussi. Il me semble que c'est Michel-Ange qui disait qu'en fait, lui, il ne sculptait pas, mais qu'il libérait les statues qui préexistaient déjà dans le marbre. Mmh. Ben moi, j'ai exactement la même impression quand je vous lis. C'est comme si vos mots, ben, ils se trouvaient quelque part dans l'univers ou ailleurs, et puis que vous, vous les libériez tellement votre écriture me semble évidente et limpide et puis ancrée. Et à la fin de chaque roman, ben, on se dit que vous n'arriverez plus jamais à quelque chose d'aussi beau.
Et pourtant si.
Merci. Merci.
Vous êtes servi Laurent, hein. Vous avez bien fait de venir. Bon, on va tempérer un petit peu ensemble.
Bah, allons-y. Soyez dur.
Non, quand même pas. Mais c'est vrai qu'on vous a connu avec des textes lumineux, souvent pleins d'espoir. J'ai souvent dit d'ailleurs, ici, à la télévision, à la radio, ici l'espoir est relégué. Vous montrez que la vengeance peut être une forme de résistance qui est, dans le cas de cette histoire, récompensée. On va pas tout raconter, mais finalement Salina, elle s'en sort bien. Quelles sont les situations qui justifient la vengeance comme ça et la violence, Laurent ?
Oh là, d'une manière générale, je pense pas en pouvoir en citer. Je crois pas que la vengeance soit une solution. Je pense simplement qu'elle est une tentation. Et si on est honnête avec soi-même, je pense que chacun sait à quel endroit il suffit d'appuyer pour qu'on soit assez tenté d'aller de ce côté-là. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est que, en tout cas, je parle pour moi. Moi, je sais qu'elle est là. Je parle du désir de vengeance. Je parle pas de la vengeance effective. J'ai pas souvenir de l'avoir pratiquée. Dans le cas de Salina, je dirais pas qu'elle est, sa vengeance est récompensée. Je pense que sa vengeance l'avait amenée à une impasse qui était incarnée par ce deuxième exil, puisqu'elle va en connaître trois, une sorte d'impasse totale et de profond désespoir au fond. Et que c'est le geste d'une tierce personne envers elle qui la sort de cette vengeance.
Elle va être bannie du village, hein, on peut dire, ça. Voilà, elle va être bannie, se retrouver seule et on va garder son fils.
Voilà.
Le premier.
Mais c'est ce geste final, là on est vers la fin du roman, qui ouvre un petit peu le livre, moi je trouve, sur un peu de lumière, parce que du coup il y a un don, c'est-à-dire que les ennemis se font face et le vainqueur donne quelque chose au vainqueur.
Oui, mais ça va loin, parce qu'elle va tuer justement le vainqueur, elle va, en fait, bon, on va raconter un tout petit peu, parce qu'on va rien comprendre. Salina, elle va provoquer à un moment le combat à mort entre deux de ses fils. Elle va ensuite tuer le vainqueur, donc un de ses fils, qui ne peut pas vivre avec cette conscience-là, il peut pas vivre. Comme ça. Donc il lui dit, je ne peux pas rester comme ça. C'est le désastre absolu, Laurent Godet, parce qu'elle va l'étouffer pour qu'il meure. C'est la décadence, Laurent. C'est-à-dire que c'est un combat comme ça qui autorise tous les moyens. Et dans votre livre, à force de combattre, on parvient à ce qu'on veut. Et c'est ce qu'elle arrive à faire. Donc par la violence, elle arrive à des choses. Et on va pas tout raconter non plus, mais la fin est plutôt positive pour elle. Et franchement, elle le mérite pas vraiment si on veut se placer sur le côté de la morale.
Alors, si vous parlez des deux fils comme des êtres humains normaux, oui. Mais il faut quand même préciser que le deuxième fils en question est un fils qui est né d'elle, toute seule, qu'elle a fait sur une dune du désert et qui est sorti d'elle, un peu comme dans la mythologie, déjà avec un corps d'homme et des muscles d'homme. Donc on est dans les pics, c'est-à-dire qu'effectivement le deuxième fils, c'est le bras armé de sa vengeance incarné
mais
en
chair.
Mais
ça reste son fils, alors nommez-le autrement, je ne sais pas.
Ah ben non, c'est son fils parce que chacun des deux fils incarne...
Dieu à la limite, un dieu ça peut être cruel, mais son fils...
Mais justement, c'est le fils qu'elle a à ce moment-là, parce que à ce moment-là, elle n'est que vengeance. Oui, et je reviens à l'idée, parce que moi, je n'en démords pas. Je pense pas que à la fin tout soit heureux pour elle. À la fin, une fois que le deuxième fils a tué le premier, on est dans l'impasse. Elle ne sait plus que faire d'elle-même.
Bon, Laurent Godet, en France, il y a une révolte en ce moment même d'une partie de la population. Ces gilets jaunes, comme on les appelle, sont pour une majorité dépassés par la violence. La violence est-elle justifiable, Laurent Godet, dans votre histoire ou dans le réel? Est-ce que vous arrivez, vous, la justifier à un moment?
Non, mais encore une fois, je me place pas à ce niveau-là. C'est comme si vous demandiez, est-ce que la violence est justifiable quand on regarde Médée au théâtre?
Ouais.
C'est-à-dire que on
peut
pas...
Vous la justifiez un peu dans le roman.
Je crois que je la convoque, je la montre, je la déploie, je la laisse se déployer, parce que je crois profondément que et le théâtre et les livres sont faits, sont des espaces où c'est possible. N'importe quel livre, aussi violent soit-il, sera toujours des mots sur de la violence et pas de la violence brute. Et c'est fondamental, c'est ce qui fait qu'un monologue d'un personnage tragique est à la fois parfois extrêmement violent et magnifique, c'est-à-dire que ce sont des mots posés sur de la violence. Mmh. Et ça, je n'en démordrai pas, je pense que c'est ça notre espace. Même Salina, même quand elle est dans la sauvagerie la plus totale, à un moment donné, c'est un chant.
Ouais. C'est un regard sur le monde. C'est-à-dire, ce que vous faites, c'est la mise en perspective de cette violence pour...
Et le fait de dire que ça existe,
analyser le
que
monde.
C'est
oui.
en nous, que ce oui. sont des tentations, oui. des pulsions, un bouillonnement qui fait partie de la patte humaine.
Mais qu'il faut contenir.
Ah ben, je crois que toute l'histoire le raconte. Mmh. C'est-à-dire que Malaka
oui.
se démarque aussi de ça, le fils qui raconte l'histoire de sa mère, c'est aussi pour s'en débarrasser. Oui. Et à la toute fin du livre, je pense que Malaka arrive avec une vie ouverte devant lui, qui ne sera plus empêtrée dans ces histoires de violence.
C'est vrai, tiens. Vous m'avez convaincu finalement.
Non, je sais que non. Mais
je vous assure
grave,
que si, non, je vous assure. si, j'avais oublié Malaka, effectivement, c'est peut-être le symbole de l'espoir. Vous avez raison. Bon, si vous avez compris ce livre, tant mieux. Sinon, lisez-le. Dans tous les cas, lisez-le parce que c'est du grand Laurent Godet. Vous l'avez entendu avec nos libraires. C'est de la grande littérature. Merci beaucoup, Laurent.
Merci, bonjour.
Votre roman Salina, Les Trois Exils est paru chez Actes Sud. À suivre des histoires d'insectes. Vous restez avec nous, Laurent. Histoires d'insectes qui vont vous donner plein d'infos, plein d'anecdotes aussi à raconter pour le week-end. Et puis tout à l'heure, Amélie Nothomb face aux lycéens. Voici la chanteuse québécoise Cœur de Pirate avec un extrait de son dernier album dans la librairie francophone.
Je comptais tes peurs dans le temps, ce qui sépare l'espace de tes choix. Je n'étais pas seule et les fleurs, tu les comptes sur le bout de tes doigts qui défient noirceur et supplice. Mais moi je suis attirée par le vice. On s'assemble ensemble, mes petits matons. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vivre en moi. D'abus je vis des rêves, tes mots comme une loi. Comme une prémonition, on ne changera pas. Les limites des corps, ceux qui partagent nos évas, nos pensées. On s'éprend de douleur, mais on est attiré par notre malheur. On détruit ensemble mes petits matins.
Cœur de pirate avec Prémonition sur la RTS, la RTBF, Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Nous allons parler des insectes donc avec François Lasserre, enseignant et auteur, spécialiste de la vie des insectes en quelque sorte. Si on les déteste au point d'en être phobique pour certaines espèces, faut-il lire votre livre et vous écouter François ?
Évidemment.
Évidemment. On commence par le pire ?
Ce qui sera le meilleur pour moi, allez-y.
Le meilleur pour moi c'est le cafard ou la blatte, champion ou championne de la course ?
Oui, de la course à pied.
Course à alors, pattes.
Comment ?
Course à pattes.
Course à pattes, tout à fait. Oui, six pattes, exactement. Moins que les araignées, qui en ont huit. Alors la blatte, c'est vrai qu'en fait, j'arriverai pas à faire passer cette idée, mais la blatte, dont certaines s'appellent des cafards, celles qui vivent dans les villes, en fait, c'est des blattes qu'on a fait venir d'ailleurs, elles sont trop froides dehors, donc elles vivent dans nos maisons, mais les blattes de France vivent dehors, sont habituées à l'hiver. Finalement, quand on la regarde avec un regard objectif, est-ce possible ? Eh ben, c'est un insecte extrêmement gracieux. Ah c'est ouais. Sur des très grandes pattes avec des très longues antennes. La tête est cachée par le thorax. Oh, c'est ouais. Une espèce de carapace unie comme ça. C'est assez ravissant.
Horrible.
Et en plus, elle court très très vite.
Oui.
Et elle court très vite. Alors c'est vrai que c'est la championne de la course à pied chez les insectes. En revanche, si elle était grande comme nous, elle serait écrasée par sa carapace. Donc elle ne pourrait pas courir à 200 ou 300 km/h comme souvent on essaye d'extrapoler. Et la blatte, elle sait qu'on arrive parce qu'elle a des poils à l'arrière du corps qui sentent le courant d'air avant même qu'elle nous ait repéré. Donc
ouais,
même
vibration.
Si vous essayez de l'écraser, elle s'enfuit.
Alors elle court à 5,44 km/h, soit l'équivalent de 330 km/h pour un humain.
Voilà.
La famille des blattes est très grande, plus de 5000 espèces dans le monde. Certaines sont très grosses, la blatte de Madagascar, je pense que c'est la meilleure, parce qu'en plus elle vous souffle dessus, c'est formidable. Les insectes sont donc les plus nombreux sur Terre, François. On estime leur nombre à 10 milliards de milliards.
Ouais, alors
ça fait combien
ça ? C'est pas trop, c'est des extrapolations.
De
oui, on peut pas
ouais,
se rendre
pas,
compte.
Ouais.
En tout cas, le poids des fourmis égale le poids des hommes, par exemple.
Ouais.
Alors les plus nombreux chez les animaux, c'est les animaux. 3 animaux sur 4 sont des insectes. On est sur une planète d'insectes.
C'est ça.
En quantité d'espèces, j'entends.
Il y a une histoire incroyable dans votre livre, François Lasserre. Il existe ce que vous nommez un plancton aérien.
Oui.
Des bestioles dans le ciel.
Alors,
mais
il y a
plein de bestioles, plein.
Plein, des milliards. En fait, un mois d'été, au-dessus de vous, il y a une colonne de plusieurs milliards de bestioles qui passent au-dessus de vous. Alors, il y a évidemment les insectes que vous voyez qui volent plus ou moins haut. Il y a ceux qui sont emportés par les courants thermiques, parce qu'ils sont tout petits, et puis qu'ils migrent, ils reviendront pas, ceux-là, mais ils partent. Il y a même des bébés araignées qui ne sont pas des insectes, mais qui arrivent à voler avec un grand fil. Et jusqu'à ce termite qu'on a retrouvé à 5800 mètres d'altitude.
Ouais, sur un avion.
Sur un avion. En fait, on a mis des bandes autocollantes sur des avions et les entomologistes se sont amusés, entre guillemets, c'est pour la science, à voler à certaines altitudes et à récolter ensuite tous les insectes qui étaient collés sur le plastique. Et il y en a jusqu'à plus de 5000 km et ils survivent très bien.
Ouais.
Il y a des insectes qui voyagent, qui font des centaines de kilomètres tous les étés.
Comme Laurent Godet qui fait des centaines de kilomètres en avion, qui a peur de l'avion, vous pourriez vous coller sur une bande.
Mais pour
comme
la...
Si comme
c'est
les
pour
termites.
La science.
Ça est-ce vous occuperait tout le voyage.
Est-ce que je peux poser une petite question ?
Allez-y, oui.
Est-ce que les insectes épuisent leur environnement ?
Oui, souvent en fait. Oui, l'espèce d'harmonie qui serait non humaine n'existe pas vraiment. Si c'est le fond de votre question,
oui,
les espèces utilisent
nous,
plus ou moins leur environnement.
Comme...
Et puis après, elles se déplacent. Voilà, s'il
n'y
a plus rien, elles changent.
Les insectes sont très utiles en tout cas pour se soigner notamment, on va y revenir, mais aussi et surtout pour l'agriculture. Sans insectes, pas de courgettes, pas d'avocats par exemple.
Non, c'est vrai. Alors quand on était petit, on nous disait, tu sais, on faisait le malin en disant, tu sais, la tomate est un fruit. Ah, oh, c'est incroyable. Mais en fait, tous les légumes qu'on mange sont des fruits quasiment.
Eh oui.
Les courgettes, les concombres, les cornichons, les avocats, etc. Et tous. Et donc, qui dit fruit d'un point de vue botanique dit fleur en amont. En fait, un fruit, c'est une fleur qui est tombée enceinte.
Ouais.
Et les fleurs ne tombent pas enceintes sans le passage d'un insecte. Une grande partie des fleurs ne peuvent pas tomber enceinte sans qu'un insecte ait transporté leur spermatozoïde. D'une fleur mâle à une fleur femelle. Et donc, tout ce qu'on mange quasiment, tous les légumes, entre guillemets, sont pollinisés grâce aux insectes.
Certains insectes peuvent nous soigner. Donc, parlons rapidement de l'asticothérapie, François Lasserre.
Oui, alors, c'est les personnes qui l'acceptent et qui ont une plaie vraiment épouvantable.
Ne faites pas la
grimace, les personnes qui l'acceptent, hébergent des asticots sur leur plaie, parce que les asticots vont nettoyer uniquement les tissus nécrosés et vont faire un travail en fait beaucoup plus soigné qu'un chirurgien ne le ferait. Le chirurgien va bien travailler, mais ça se verra beaucoup plus que si des asticots le font. Ils ont une espèce d'antibiotique en fait qui en plus vous soigne la plaie. Oui. L'asticothérapie est utilisée dans certaines, alors c'est un peu compliqué à mettre en place, mais en tout cas c'est utilisé pour avoir une belle cicatrice. Utilisez les asticots si ce sont les enfants des mouches.
Voilà, cet été, si vous tombez à vélo, chopez des asticots, vous mettez ça sur la plaie, c'est réglé.
Pourquoi
c'est plus
pas.
Compliqué que ça.
C'est un peu fait dans des conditions un peu médicales, mais en gros, c'est ça.
Bon, ce sont les guêpes qui ont inventé le papier, dites-vous, bien avant les Chinois.
Alors oui, bien avant, parce que les insectes sont là depuis plus de 450 millions d'années, et Sapiens 300 000 ans seulement. Entre guillemets. Tout le monde l'a remarqué, un nid de guêpe social, c'est une espèce de grosse boule grise, vous l'avez tous plus ou moins vu dans un grenier, etc. Et puis en fait, quand on s'approche, il est composé de milliers de petites feuilles de papier. Chaque guêpe est allée rogner un morceau de bois, la mélanger avec sa salive, et du bois, de la cellulose mélangée avec un liquide devient c'est de la pâte à papier, et à chacune étale sa petite pâte à papier, et au bout d'un moment, ça forme une boule, mais faite de milliers
de papier,
petites feuilles de papier. Et effectivement, les hommes ont copié la nature et ce que font les insectes et tous les autres animaux de façon inimaginable. On ne s'en rend pas compte à quel point, mais en fait, notre culture est complètement dépendante de la culture des autres animaux, dont les insectes.
Un mot sur le moustique, François Lasserre, cette saleté de bestiole qui tue le plus d'hommes, hein, largement devant le serpent et le chien. Oui, le chien tue 25 000 hommes par an et le moustique, c'est aux alentours de 750 000 par an.
Oui.
Vous avez trouvé un moustique, un beau moustique, vous?
Alors,
vous dites, il est beau, ce moustique.
J'ai trouvé un des plus beaux insectes du monde.
N'attends pas moison.
Quasiment. Alors bon, c'est complètement subjectif. Il s'appelle Sabetes cyaneus. Cyaneus, ça veut dire qu'il est bleu. Il a des grandes pattes. Il a comme des espèces de grandes plumes aux pattes. Il est bleu. Et puis quand il se met à sucer, qu'il plante sa bouche dans la peau, il lève les fesses en l'air. Ses pattes sont en avant. Enfin bref, on dirait un spectacle de loading de l'opéra.
C'est érotique, quoi.
J'essaye de revaloriser un petit peu les moustiques, mais j'avoue que c'est pas facile pour cela.
Non, c'est pas facile. Le temps aussi, immonde bestiole, grosse mouche qui pique et qui peut causer des œdèmes, a une particularité. Il est très discret à l'atterrissage. Alors vous ne le sentez pas et surtout qu'il préfère les peaux mouillées. Et il glisse comme ça. Hein, il glisse sur vous.
Et il a des espèces d'amortisseurs. En fait, il y a un temps, il a des amortisseurs.
Non, mais
sur
Laurent Godet,
c'est tout à fait vrai, parce que ceux qui n'ont pas d'amortisseurs se prennent une grande plaque sur la tête. Et donc, les femelles dedans, parce que c'est que les filles qui nous piquent chez les insectes, quasiment, y compris chez les guêpes ou les abeilles.
Chez les
hommes
aussi,
la femelle tend, c'est comme les moustiques, elle va chercher du sang, ça lui permet de fabriquer ses œufs. Et au moment de l'atterrissage, elle utilise plein de stratagèmes. Elle sait aussi où sont nos yeux, donc elle préfère se poser derrière nous. Elle n'aime pas trop qu'on ait un t-shirt blanc parce qu'elle va se faire repérer plus facilement. Donc une chemise sombre dans le dos, on est certain de se faire piquer par une femelle de temps.
Et donc les insectes ont une conscience, c'est ça que vous dites, et un ego aussi.
Alors, on a remarqué en analysant aussi le cerveau de mouche qu'il y avait certaines structures qui étaient équivalentes aux nôtres. Et effectivement, on se rend compte qu'en fait, il a des expériences subjectives comme nous. Et un insecte, il n'est pas là comme ça, comme une espèce de robot en se disant « qu'est-ce que je vais faire ce matin ?» Et on se dit que cette espèce de conscience est née au moment où les êtres vivants ont commencé à être indépendants du milieu. Par exemple, vous prenez une méduse qui est dans la mer, elle est complètement dépendante du milieu. Donc, elle n'a pas vraiment à réfléchir, elle a juste à aspirer des aliments. Alors qu'un insecte, le matin, il faut bien trouver de la nourriture, une femelle, se déplacer, faire son nid, faire sa crotte en dehors de la feuille, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, oui, alors de toute manière, sur la conscience des animaux non humains, on est juste au début, on est avant Copernic sur ce que la science va découvrir.
Mais on découvre plein de choses chaque jour. Quand vous mangez du miel, pensez que pour fabriquer un kilo de miel, les abeilles ont parcouru 40 000 kilomètres, l'équivalent du tour de la Terre. Ça fait réfléchir. Merci beaucoup, François Lasserre.
Merci à vous.
Merci infiniment. Les super pouvoir des petites bêtes est paru chez Delachaux et Niellé. On y apprend beaucoup de choses et c'est très drôle grâce au dessin humoristique de Gilles Macagno d'ailleurs.
Oui, magnifique.
Ouais, un livre pour tous à un petit prix. Voilà Laurent Godet, de quoi faire votre Noël.
Eh bien oui.
Merci François. Les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec un coup de gueule, Mathieu Colombe, et une triste nouvelle.
Complètement. Mon confrère, ami et voisin, la librairie de Provence, va fermer. Et va fermer à cause d'un mal qui ronge les librairies petit peu par petit peu depuis des années. En fait, ils vont fermer parce que leurs loyers vont tellement augmenter qu'ils vont pas être en mesure de les régler et de rester ouverts. Donc ils sont obligés de fermer. C'est pas les premiers à faire ça. Il y a de nombreuses librairies qui ferment à cause de ça tout le temps. Personne ne fait rien parce que je pense que ça importe assez peu les politiques, mais on a vraiment besoin d'une aide à ce niveau-là.
Ouais. Et vraiment. C'est votre concurrent. C'était votre concurrent.
Oui, c'est mon concurrent, mais on peut travailler en bonne intelligence. Ouais. Voilà. Et c'est toujours un drame si un confrère ferme.
Exactement. Merci beaucoup, Mathieu. Déborah Damblon pour la Belgique. C'est triste aussi, hein. Chez vous, un coup de cœur et un hommage aujourd'hui.
Voilà. Pour Elisa Brune, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, à 52 ans. Alors, Elisa Brune, elle était romancière, elle était essayiste, elle a parlé de beaucoup de choses, elle a parlé d'astrophysique, elle a parlé d'amour et de plaisir féminin, elle a parlé de vie et d'envie de la vivre. Elisa Brune, c'était une écriture, et c'était une personne vraiment extraordinaire. Et je lui souhaite d'être dans les étoiles qu'elle connaissait si bien.
Bien. On pense aux proches d'Elisa Brune dans cette émission aujourd'hui. Merci Déborah. Josiane Letourneau pour le Québec. Un coup de cœur ou un coup de gueule, vous ?
Ben, un coup de gueule, en fait. Sur Noël qui approche. Parce que Noël allégresse, mais aussi Noël stresse. Alors, plus la date approche, plus on sent le rush, les gens qui arrivent avec leur liste, à qui j'ai envie de dire, à leur air crispé, à leur front plissé, que ceci n'est pas un examen colorectal. On va y arriver. Comme Noël dernier. Et puis celui d'avant. On respire. Oui. Vous entrez dans une librairie, il y a des livres, il y a de la musique, tout est parfait. Et de toute façon, les libraires sont là. Alors, voilà.
Quelle comparaison magnifique, Josiane. Hein ? Vous êtes inspirée aujourd'hui. Hein ? Non mais, ça dérape comme les Laurent Godet n'en peut plus.
On y pensera tous la prochaine fois qu'on poussera la porte d'une librairie, oui.
Ah oui, ça donne envie, on va y aller.
Non, j'ai foutu le bordel.
Non. Bon, on va arrêter tout de suite, Josiane.
C'est bon.
On va passer à quelqu'un d'autre très vite. Un coup de cœur avec Laura Sanchez dans le rayon jeunesse en Suisse.
Oui, j'essaye de tenir le choc, le cap. Donc oui, de mon côté, un gros coup de cœur et au passage, un super conseil pour vos achats de Noël raisonnés et raisonnables. Oui. Donc un livre à mettre entre toutes les mains de 5 à aller 105 ans. C'est un livre qui s'appelle « Il était une fable ». C'est paru à la Joie de lire. Il y a la forme classique de la fable qui rassure. Et paf, on se retrouve dans l'univers délicieusement déjanté de Pascal Teulade, accompagné par Adrienne Marmont au dessin. C'est un pur régal. Allez voir ça.
Et c'est aux éditions La Joie de lire. Merci Laura.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Retour à présent sur notre précédente émission à Radio France Faites le Livre avec Amélie Nothomb il y a 2 semaines. Nous étions face à 200 lycéens, rappelez-vous. À la fin de l'émission, nous avons organisé une rencontre entre ces jeunes et Amélie. Elle s'est prêtée au jeu des questions-réponses dans une grande convivialité. Il a beaucoup été question du Japon. Et voici quelques extraits avec ce public vraiment, vraiment surprenant. Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Emmanuel.
Pour cette masterclass devant 200 lycéens à la Maison de la Radio, dans le cadre de Radio France Faites le Livre, nous allons parler avec vous de votre parcours. Les lycéens ont des questions à vous poser. Qui commence ?
Ah, un jeune homme.
On vous voit très mal alors.
Ah, je pense que c'est un garçon.
Ouais, il a les cheveux longs, mais c'est magnifique les cheveux longs pour un garçon.
Bonjour.
Quel est ton prénom ?
Antonin.
Antonin.
Bonjour.
Allons-y.
Antonin.
Alors, Amélie Nothomb.
Oui.
Vous avez vécu au Japon ?
Oui.
Et donc, je voulais savoir, pour la culture nippone et tout ça, est-ce que vous avez déjà lu des mangas et est-ce que vous en avez kiffé un
Alors, la conséquence paradoxale quand on a vécu beaucoup d'années au Japon, c'est qu'on a moins le culte des mangas qu'ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on prend le métro tous les jours à Tokyo, on voit tellement de salaryman, c'est-à-dire de pauvres employés épuisés, qui lisent des mangas, mais pour se vider la tête et avec un air de dégoût. Ce qui fait que, pour moi, le manga, c'est un petit peu devenu ça. C'est un petit peu devenu la drogue du pauvre employé qui a besoin de se vider la tête avec quelque chose. Donc, a priori, je kiffe moins. Bon, le paradoxe, c'est que j'ai commencé véritablement à apprécier les mangas quand je suis arrivée en Europe. C'est en Europe que j'ai découvert Ghost in the Shell, qui est la manga numéro 1. Et bien sûr, c'est un chef-d'œuvre. Mais il faut bien vous dire que ce qui nous arrive ici en Europe, c'est la crème de la crème des mangas. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. C'est la manga de merde que se tape le pauvre employé dans le métro pour se vider la tête.
Oui, c'est jetable.
Qui est jetable. Ouais. Et j'ai du mal à apprécier ce genre parce qu'on sent bien que c'est l'opium du peuple. Voilà. La manga, c'est le meilleur et le pire.
Au Japon, on trouve comme ça des mangas dans le métro gratuits, oui. comme des journaux gratuits, jetables. Et ils les lisent, ça fait 10, 15 pages, et après on les jette, le temps d'un trajet.
Et il y a toujours une connotation sexuelle assez misérable. Souvent, c'est l'unique vie sexuelle du malheureux employé qui prend le métro, c'est de lire la manga avec une espèce d'air veule comme ça, qui m'a beaucoup marqué. Ouais.
Bien, merci Antonin. Une autre question.
Merci. En bas. Demoiselle, ah oui.
Bonjour. Quel est ton prénom? Bonjour.
Tanina.
Bonjour Tanina.
Bonjour. Bon, Amélie Nothomb, je voulais vous poser une question. Après avoir escaladé le mont Fuji, quand vous me disiez qu'il fallait crier Banzai pour être un vrai japonais, est-ce que là, maintenant, vous vous considérez un peu comme une japonaise?
Non, j'ai mis beaucoup d'années à comprendre que j'étais une japonaise ratée. Donc, je pense que c'est parce que je suis une japonaise ratée que je suis devenue écrivain. J'ai complètement raté ma carrière de japonaise et c'est pas faute d'avoir fait des efforts. J'ai compris, vous savez, j'ai tout fait pour devenir une vraie japonaise. J'ai très bien parlé le japonais. J'ai été une employée de bureau, je vais pas dire modèle, mais pleine d'efforts. J'ai été fiancée à un jeune homme japonais charmant. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour être une vraie japonaise. Et un jour, ma belle-mère, donc la mère de ce jeune homme, m'a regardée avec un sourire et elle m'a dit « Pourquoi te donnes-tu tant de mal ? Pourquoi te donnes-tu tant de mal à avoir l'air d'une vraie japonaise alors que de toute façon, avec un visage aussi expressif, on voit très bien que tu ne seras jamais une dame ?» Et ça m'a tellement traumatisée que je me suis dit « C'est vrai, ça ne sert à rien que je fasse des efforts parce que je peux tout obtenir de moi sauf d'avoir un visage inexpressif. » Et je crois que c'est ça le traumatisme qui m'a fait quitter le Japon finalement, malgré tout ce que j'avais pu endurer jusque-là. Et un recyclage de japonaises ratées, eh bien, ça donne un écrivain belge francophone. Et le jeune homme là du troisième rang, qui ça fait 3 heures qu'il attend.
Où vous êtes là?
Voilà, il l'a en main, c'est lui.
Quel est ton prénom?
Je m'appelle Willan.
Bonjour.
Ohayo gozaimasu.
Ohayo gozaimasu.
Yes. C'est pour savoir
si tu parles japonais?
On va dire que non. C'est pour savoir si la culture japonaise elle a impacté vos livres.
Oui, très profondément. Même si je suis une japonaise ratée, il y a quand même une sacrée séquelle. C'est pas gratuit de vouloir être japonais pendant 22 ans de sa vie, il en reste quelque chose. Je pense que si mes livres sont si stylisés, mettent en scène tant de cruauté, tant d'affrontements, c'est parce que j'ai voulu être japonaise très longtemps. Et ça s'est vu au travers de l'histoire japonaise. Dès qu'il y a eu des guerres au Japon, les guerriers japonais se sont révélés des guerriers plus farouches que tous les guerriers du monde entier. Parce qu'il y a dans l'âme japonaise une sauvagerie sans limite et une absence de peur de la mort qui est absolument exceptionnelle. Et je crois qu'on sent ça dans mes personnages. Mes personnages sont prêts à se battre jusqu'au bout. Ils n'ont pas peur de la mort.
Une autre question. Allez-y, quel est votre prénom?
Shahan, c'est un peu compliqué.
Shahan, bah non, ça va, vas-y.
Bonjour Amélie Nothomb, c'est un plaisir d'être avec vous.
Merci.
Est-ce qu'il vous faut un élément extérieur pour obtenir une meilleure inspiration? Je m'explique, à l'image de Honoré de Balzac, avec sa consommation de café excessive, et Claude Nougaro, sa consommation d'alcool, je me disais que vous avez été influencé par la, donc vous repérez comme étant belge. Est-ce que la variété de bière vous permet?
Alors, j'adore la bière belge. J'adore votre question. J'adore la bière belge, mais alors, si grand sont mon amour pour la bière belge, je pense que vous avez compris que mon amour pour le champagne était encore beaucoup plus grand. Par ailleurs, j'ai essayé d'écrire sous l'emprise du champagne, ça donne juste n'importe quoi. À vrai dire, j'ai essayé absolument toutes les substances pour voir ce qu'elle allait donner le meilleur
résultat.
Comment
ça, toutes les substances?
Légales ou non.
Et ah oui?
Dans mon cas...
Vous évitez ça tout de suite, hein. Vous n'écoutez pas tout ce qu'elle dit non plus.
Mais si, parce que la conclusion est totalement morale.
Allez-y.
De toutes les substances que j'ai pu essayer, eh bien, celle qui produit sur moi le plus grand effet, c'est le thé. J'écris sous l'emprise du thé. Quand je me lève tous les matins à 4h du matin, je me prépare tout de suite un demi-litre de thé noir, beaucoup trop fort, que je bois d'un trait et qui fait exploser ma tête tous les matins. Donc c'est grâce à ce thé trop fort. Donc finalement, je suis japonaise, hein. C'est quand même un truc japonais qui me fait écrire, c'est le thé.
D'accord. Et pas le saké.
Oh, j'ai essayé, ça marche pas.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
La librairie francophone à Radio France Fête le Livre, comme toutes les émissions de l'année d'ailleurs, est à écouter en podcast ou balado-diffusion sur notre site internet et sur certaines plateformes musicales d'écoute en ligne.
la librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Pierre Lepori.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez Nuit américaine aux éditions d'En Bas, l'histoire d'un animateur radio de nuit qui écoute les douleurs des auditeurs. Un soir, il craque, il s'effondre. Qu'est-ce qui se passe ?
Bon, en fait, c'est pas très clair ce qui se passe à ce moment-là. C'est lui seulement qui le sait, ouais. Et je pense que même le lecteur ne le saura vraiment pas. À la limite, il ne craque même pas. Il fait semblant de craquer parce qu'il ne sait plus quoi dire. Ouais. Il sent un grand silence s'ouvrir devant lui. Bon, pour tout homme de radio, vous le savez, le grand silence est la hantise absolue. Et il décide de faire semblant de craquer même. Et puis, plein d'autres choses vont s'en suivre.
Non, je testais le.
Oui, exactement. Le silence. J'ai bien compris.
Une habitude s'est installée chez lui. Son métier est un palliatif, c'est ça ? Il vit à travers les auditeurs pour éviter de voir sa vie en face ?
Oui, plus ou moins, pour éviter peut-être de reprendre le fil de quelque chose qui s'est cassé un jour et qu'il faudrait peut-être renouer quelque part. Et puis surtout parce qu'il est tellement habitué maintenant à écouter ce qui se passe dans son casque, parce que c'est un animateur de radio nocturne qui tient une émission qui s'appelle justement Nuit américaine, où il écoute les déboires, les histoires, les anecdotes de ceux qui n'arrivent pas à dormir, de ceux qui ont quelque chose lourd sur le cœur. Et lui, il écoute, et peut-être il ne s'écoute plus.
Ouais, c'est ça.
Et peut-être, voilà.
Alors du coup, il est mis en congé pendant un mois. Il va partir vers le Canada ou les États-Unis. C'est pas mentionné, mais on imagine.
C'est le Canada, en tout cas.
Ah, c'est le Canada, d'accord.
Ah, c'est Montréal, en tout cas.
Ah, moi, je voyais New York, oui.
Ah, peut-être.
Pourquoi vous ne l'avez pas écrit, ça aurait été réglé.
Mais c'est mieux, comme ça, le lecteur peut décider où il veut, où il veut voir ce personnage, en fait. Mais c'est clairement le... D'accord. Je pense que la libraire canadienne pourra facilement reconnaître certains détails qui sont de Montréal.
Bon, en tout cas, il est dans une grande ville. Il est mis face à sa réalité. C'est hostile une grande ville, Pierre Lepori, quand on est dans le désarroi.
Je ne sais pas si c'est hostile, parce que lui, plutôt, il a envie de se perdre, d'aller jusqu'au bout de sa dérive. Donc, je ne dirais pas que c'est hostile. C'est plutôt un lieu où il peut emprunter des chemins tout à fait inattendus, plonger dans le métro, aller jusqu'au terminus du métro. En fait, il passe ses journées à même pas remonter à la surface, à passer d'un terminus à l'autre, et puis surgir dans des périphéries glauques où il se passe des choses bizarres, où peut-être il va apprendre quelque chose là aussi.
Ouais, c'est vrai que c'est la déprime totale, ça. Absolument. Pierre, hein. Vous alternez en plus des pages avec des confidences d'auditeurs qui sont écrites comme un exercice de style, des micro-histoires ponctuées par des musiques. Cette musique, elle met en perspective ces histoires-là.
Oui, c'est presque un peu une coquetterie. Hein. L'idée, c'est que l'émission radiophonique contient, comme tout ce type d'émission radiophonique nocturne, il y a toujours le passage à l'antenne de l'auditeur et puis une musique, une chanson qui rappelle peut-être quelque chose, qui enchaîne, etc. Et là, j'ai décidé de mettre ces chansons. C'est une ouverture en plus pour les lecteurs, mais ce n'est pas non plus le sens de ce qu'ils disent. Même, ça serait un tout petit peu une didascalie de mettre une chanson qui explique ou raconte quelque chose.
Il y a une auditrice qui dit « C'est vrai que c'est joli quand c'est triste à la radio. »
Oui, c'est vrai, c'est joli quand c'est triste à la radio.
Un peu de tristesse donc, Pierre Lepori. Nous allons écouter la BO du roman avec la chanteuse Lassa que vous citez parmi les titres que vous proposez à l'écoute. Un peu comme à la radio, quoi.
Exactement.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es juego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo.
Lassa, magnifique et généreuse artiste, morte à Montréal le 1er janvier 2010 à l'âge de 37 ans. Je pense à elle tout particulièrement grâce à vous aujourd'hui, Pierre. Née à New York, d'origine russo-polonaise et libanaise, elle a vécu au Québec et aussi à Marseille. Lassa portait les cultures du monde, elle était d'une douceur et d'une gentillesse absolue. Et cette chanson, elle met en musique la mélancolie de vos personnages ?
Absolument, et puis c'est une chanteuse qui chantait toutes ses langues aussi. Hein. Oui. Dans ce disque, notamment, elle chante en anglais, chante en espagnol, sa langue maternelle. Oui. Mais qu'est-ce une langue maternelle, en fait, on ne le sait pas exactement. Et puis aussi, justement, en anglais, en français. Et c'est très beau ce mélange. Mmh. On sent vraiment qu'il y a cette incertitude, ce tremblement, cette fragilité qui passe d'une langue à l'autre. Et justement, cette instabilité la porte très, très, très loin. Mmh. Oui, elle nous manque beaucoup.
Oui, c'est vrai, beaucoup. Cet album de Living Wood qu'il faut absolument écouter. Il y a les quatre libraires, Pierre, qui vont donner un avis sur votre livre. On commence par la Suisse, avec Laura Sanchez, qui n'est pas vraiment convaincue. Laura ?
Ben, moi, j'ai eu un petit peu de mal à sentir la colonne vertébrale du texte. Il y a pas mal de thèmes abordés et des personnages évoqués dans ce roman, dont certains que j'aurais vraiment eu envie de voir plus développés. Mais bon, moi, j'ai quand même apprécié. J'ai vu le récit d'une renaissance au gré des rencontres et des souvenirs de ce personnage principal. Et puis, c'est une très jolie immersion dans le monde de la radio quand même, avec effectivement ces liens vers la musique. Moi, je me suis amusée carrément à les écouter au fur et à mesure et ça fonctionne très bien.
En Belgique, Déborah Damblon, comment s'est passée votre lecture ?
Ben, lire votre livre, c'était un peu comme écouter une émission de radio la nuit. Alors c'est plutôt pas mal, hein, c'est intéressant, parfois c'est un peu original. Mais au bout du compte, je trouve qu'il y a beaucoup de mots pour parler de choses qui nous embrouillent parfois un peu la tête. Alors je me suis laissée bercer sans déplaisir par votre émission, mais arrivée à la fin, ben, je me rappelle plus trop bien de quoi ça a parlé.
Josiane Letourneau au Canada, êtes-vous d'accord, pas d'accord ?
Ben, assez d'accord en fait, moi ce sont surtout les monologues qui m'ont touchée dans ce roman. Et comme mes collègues, ce que j'ai trouvé génial, c'est l'idée de jouer avec le concept d'émission de radio jusqu'au bout avec la trame musicale, parce que la musique nous accompagne souvent en littérature, mais dans ce roman, c'est presque un personnage.
C'est vrai que c'est fragile, hein, Pierre Lepori, ce livre. Ça nous touche forcément, et puis ça nous met un peu en colère. Moi, il m'a mis un peu en colère. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette histoire d'un animateur de nuit à la radio qui recueille comme ça les confidences des auditeurs, c'est un sujet qui a été traité de multiples fois, notamment par des séries télévisées insipides. Vous auriez pu en faire une grande histoire, mais vous êtes resté à la surface, comme dans ces films, comme si vous n'aviez pas osé aller trop loin.
Non, c'est toujours un tout petit peu ma démarche en écriture, en fait, hein, d'essayer juste d'effleurer ses destins, toujours de pas plonger complètement et de laisser le lecteur faire son travail, en quelque sorte. Mes personnages finissent toujours dans des dérives où il n'y a pas vraiment une issue. On me dit souvent qu'il n'y a pas de finale, qu'il n'y a pas de fin à mes livres, que ça finit toujours un peu d'une façon un peu ouverte, où on se dit, bon, le personnage est laissé là. Et en fait, je ne veux pas, disons, oui, c'est vrai.
Quoi, explorer ? Parce qu'il y avait plein de choses à dire sur la psychologie de ces auditeurs, des animateurs de radio, notamment. Il y a plein de choses à explorer. Pourtant, il n'y a rien, il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas d'âme.
Le livre est en quelque sorte partagé en deux lignes, en fait. Il y a les lignes des personnes qui appellent, et on ne sait pas, le livre dit clairement qu'on ne sait pas s'il raconte la vérité ou pas, s'ils sont en train de tout inventer. Et puis, il y a cette perdition de ce personnage qui est typiquement un personnage que j'explore toujours, c'est-à-dire c'est un personnage qui se perd, qui se laisse aller, qui se laisse choir.
Bien, Mathieu Colombe, pour la France, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi.
Exactement.
Allez-y.
Exactement, parce que moi, je l'ai bien aimé, ce petit roman. Déjà, je trouve qu'il a un côté rafraîchissant, même s'il est très noir. Moi, j'aime bien le style direct que vous utilisez avec votre personnage principal. J'ai bien aimé, j'ai même très aimé les petits témoignages des auditeurs qui précèdent chaque chapitre parce qu'ils sont très savoureux. Et franchement, moi, je pense que ces vacances expiatoires, parce que c'est exactement ce dont il s'agit dans ce roman, ben, ça saura trouver son lecteur et ça saura interpeller son lectorat.
Bon. Merci. Voilà, Pierre Lepori, c'est possible de soigner ses états d'âme, d'alléger sa misère en puisant dans celle des autres, comme il le fait, vous
Mais
y croyez ?
Oui, c'est un tout petit peu l'impasse dans laquelle ce personnage se trouve, en fait. Au fond, il a abdiqué à son propre destin pour écouter les destins des autres, mais en fait, ça ne suffisait pas, et puis c'est bien pour ça qu'il craque.
Vous l'avez fait, vous, ça ? Puiser chez les autres pour
vous
soulager ?
Non, pas particulièrement, c'est pas un roman autobiographique.
Non, je sais pas, je dis ça comme ça.
Je travaille à la radio, mais en fait, je n'ai jamais travaillé la nuit à la radio, je n'ai jamais écouter les gens à la radio, j'ai plutôt posé des questions.
Non, vous êtes équilibré.
Oui, je suis assez équilibré, bien sûr.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci à vous.
Merci. Pierre Lepori, Nuit américaine, est paru aux éditions d'En Bas. Bonne chance pour ce livre. Merci d'être venu dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de projecteur sur une découverte musicale avec la chanteuse angolaise Pongo et un extrait de Kuzola.
Meu amor me deixou. Meu amor.
banda. Me dejas aquí llorando sozinha na nossa cama. Que manda não se quebrar. A crioula que fui a te ama, te beija pra viajar.
Pongo avec Kuzola, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci beaucoup Laurent Godet,
merci.
François Lasserre, Pierre Lépori. À très bientôt. À la réalisation, Marie-Hélène Fauquet et Fabrice Lègle avec Tiffany Battistel. Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France. Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse. René Mikils avec Valérie Le Pute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, on vous conseillera des livres pour Noël. Nous serons aussi avec Natacha Apana, Franz-Olivier Gisbert et nous parlerons du vin avec deux grands sommeliers de sommité mondiale. Bon week-end, bonne semaine à vous, salut. Et ce week-end, la librairie francophone et tout le groupe Radio France associé au Téléthon 36-37. On compte sur vous, même quelques euros, c'est important. Merci à vous. La librairie francophone sera rediffusée à 1h du matin avec le bonus créole. Et à suivre, c'est toute l'équipe de Comme un bruit qui court.